verrons ce qu'en pense Sabine Dufaux de l'agence de communication digitale Relax in the Air. Toujours au menu de ce journal, l'Allemagne qui réaffirme ce matin qu'elle veut que la Grèce reste membre de la zone euro, alors que l'option d'une faillite d'Athènes était clairement évoquée ce week-end par plusieurs parties de la coalition. Nous rejoindrons notre correspondante à Berlin, Blandine Milsan, et nous verrons comment les bourses réagissent avec Fabrice Godiano. L'association Alzheimer Valais organise pour la première fois des vacances pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Une bouffée d'oxygène pour celles et ceux qui s'occupent au quotidien d'un membre de leur famille touché par la maladie. Nous recevrons la secrétaire générale d'Alzheimer Valais, Naïke Lambriguer, à la fin de ce journal. L'après-midi s'annonce bien ensoleillé avec des maximales de l'ordre de 23 degrés en pleine. Encore un peu de ciel bleu demain matin avant l'arrivée d'une perturbation pluvieuse en soirée et un mercure à 26 degrés au meilleur de la journée. Le soleil sera de retour mercredi après-midi, il dominera au moins jusqu'à vendredi, nous dira Sébastien Dupéré. Et on prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Fribourg-Vevey, toutes les voies de circulation sont à nouveau ouvertes entre les jonctions de Fribourg-Sud et de Matran en direction de Vevey. Le poids lourd en panne dans ce secteur a été évacué. Mission réussie donc pour Solidar. La petite ONG suisse a rencontré les responsables de Nespresso vendredi dernier à Berne, une semaine à peine après avoir lancé sur le web leur parodie d'une campagne de pub avec l'acteur américain George Clooney. Il faut dire que Solidar a créé un véritable buzz sur la toile avec cette parodie, Magali Philippe.
Les mêmes codes images, la même musique, vous la reconnaissez, presque le même George Clooney. Sauf que dans la campagne solidaire, George arrive à éviter le piano qui tombe du haut de l'immeuble, mais pas le panneau Nespresso qu'il se prend ensuite sur la tête et dans les parties.
Sorry, George. Mais un cueilleur de café exploité ressent la même chose que toi.
Les internautes sont ensuite incités à écrire un mail au vrai acteur pour qu'il influence Nespresso à produire du café, je cite, plus équitable. Alors ce clip a été visionné plus de 600 000 fois depuis dimanche dernier. 30 000 mails à George Clooney, le vrai, ont été reçus par Solidar. Un succès impressionnant pour une campagne vidéo budgétée à seulement 15 000 francs suisses. Un succès également politique, pourrait-on dire, vu qu'une rencontre de 2 heures a donc eu lieu entre Nespresso et Solidar vendredi dernier. Une rencontre au terme de laquelle il a été convenu qu'une étude indépendante serait lancée afin de comparer les différents labels du café équitable, la qualité de ces labels étant la pomme de discorde dans ce dossier.
Nespresso accepte donc le dialogue. Comment la multinationale a réagi sur le web, Magali? Elle a d'abord contre-attaqué sur la toile.
Voilà, quelques heures après le lancement de la vidéo virale, le géant du café a tenté de réagir, de contrer ce buzz. Le profil Twitter de Nespresso a ainsi commencé à répondre personnellement à chacune des personnes qui avaient publié la vidéo avec ce petit message « Bonjour, venez découvrir la réponse de Nespresso » suivi d'un lien sur un communiqué de presse et venez découvrir aussi l'avis des fermiers colombiens suivi d'un autre lien.
USAID solamente trabaja con pequeños caficultores en Colombia.
C'est la directrice d'une ONG colombienne qui s'exprime ici. Elle explique que Nespresso est la société qui paye le mieux en Colombie et que cela a un impact direct sur le revenu des fermiers. Le message a été envoyé à des milliers de tweetos depuis dimanche dernier, mais rien sur la page Facebook de Nespresso, à laquelle sont abonnés près d'1 200 000 internautes tout de même. Rien non plus apparemment sur le site officiel de Nespresso. À noter tout de même que la multinationale a obtenu de son côté que Solidar change le titre de la vidéo que Nespresso souhaitait faire interdire, titre mensonger mais provocateur et qui fait du clic par le titre « La vidéo qui choque Nespresso » en référence à une interview que nous a accordée le patron Nespresso suisse mardi dernier dans lequel il se déclarait choqué. Les deux parties vont donc désormais fixer un calendrier pour se revoir.
Magali Philippe de notre rubrique Multimédia. Nous sommes en ligne avec Sabine Dufaux, bonjour.
Bonjour.
Co-fondatrice de l'agence digitale lausannoise Relax in the Air, contre-campagne sur Twitter, communiqué de presse avec vidéo d'une directrice d'ONG colombienne qui vante Nespresso. La multinationale a réussi à contrer la campagne de Solidar, selon vous?
Oui, elle a probablement réussi à la contrer. Elle a on va dire, la cautionné, elle a gardé dans un certain rayon. Pour moi, c'est pas suffisant parce que Nespresso n'a pas entamé le dialogue avec ses consommateurs.
Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire selon vous? Elle était en tout cas visiblement pas préparée à subir une attaque comme celle-là.
Alors j'imagine quand même qu'après l'affaire KitKat de Nestlé, ils ont quand même pu transférer les bonnes connaissances et les bonnes pratiques et engager un bon team qui est très réactif, avoir un plan de crise pour vraiment réagir suffisamment tôt et de manière suffisamment flexible et s'adapter aux circonstances. Mais là, il semblerait quand même que, enfin, ce que je constate, c'est qu'on a simplement un communiqué de presse, donc un monologue de la marque avec les utilisateurs.
Est-ce que vous diriez d'une manière générale que les entreprises ont intégré ce risque finalement de campagne virtuelle à leur encontre ou pas vraiment ?
Alors en Suisse, pas vraiment. En Suisse, selon une étude qui a été faite en mars par Bernard Speer à Zurich, seuls 22% des entreprises ont une stratégie sociale. Alors je précise, ce n'est pas une stratégie de crise, hein, c'est une stratégie globale sociale sur les médias sociaux. Et le reste, enfin, déclare qu'ils prévoient le faire entre un mois et 12 mois. Donc il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire.
Pourquoi cette campagne de Solidar a finalement aussi bien fonctionné, créé le buzz comme ça d'après vous, Sabine Dufaux ?
Probablement parce qu'il y a un côté très émotionnel dans cette marque Nespresso. C'est une marque suisse. Le buzz a surtout bien marché en Suisse. Il a un potentiel, bien sûr, de comment dire, contaminer le monde entier, hein, comme l'affaire KitKat. Mais je crois que c'est un peu comme la marque Swissair à l'époque. Et en fait, ce qui a bien marché, c'est que en fait, le bouche à oreille. Probablement, il faut savoir quand même que bouche à oreille, il ne peut pas se contrôler. Donc Solidar a fait ce spot, mais il ne pouvait pas s'attendre aux répercussions. Tout ce qu'il a pu faire, c'est mettre en place une créativité et une production. C'est ça qu'il a pu contrôler. Ils y ont mis les moyens, parce que c'est un vrai bon spot avec les mêmes codes que le spot Nespresso. Et je pense que c'est cette perfection peut-être qui a aussi touché les consommateurs à travers un message solidaire.
Merci beaucoup Sabine Dufaux d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal, cofondatrice de l'agence digitale lausannoise Relax in the Air, invitée par Magali Philippe. Bon après-midi à vous, merci.
Je vous en prie, au revoir.
Direction l'Allemagne, où le gouvernement a rappelé ce matin qu'il voulait que la Grèce reste membre de la zone euro, alors que l'option d'une faillite d'Athènes était clairement évoquée ce week-end par plusieurs parties de la coalition Blandine 1100.
Oui, voilà, c'est un petit peu la cacophonie ici à Berlin au sujet de la crise grecque. Ça a commencé effectivement avec les déclarations ce week-end du ministre de l'économie, Philippe Rösler, qui est aussi le vice-chancelier allemand. Il ne doit pas y avoir de tabou si l'on veut stabiliser l'euro, écrit Rösler dans les colonnes du quotidien conservateur Die Welt. Si l'on veut stabiliser l'euro, eh bien, parmi ces tabous, il y a aussi la possibilité d'une faillite ordonnée de la Grèce. Même discours au sein de la CSU, la branche bavaroise de la CDU. Si la Grèce ne peut pas tenir ses engagements, dit-on chez les conservateurs bavarois, il faut pouvoir l'exclure de la zone euro en cas de nécessité. Même au sein du ministère des Finances, on semble de plus en plus convaincu que la Grèce ne pourra pas éviter la faillite et qu'il faut maintenant travailler à limiter la contagion. D'après le magazine Le Spiegel, les services des finances travailleraient à divers scénarios pour évaluer l'impact d'une éventuelle faillite de la Grèce. Peter Altmaier, un pont de la CDU proche de Merkel, déclarait ce matin « La situation est très grave, plus que certains ne le pensaient » et il évoquait même l'éventualité que la Grèce décide elle-même de sortir de la zone euro si elle estimait cela préférable. Quant à la chancelière, pour l'instant, son porte-parole précise qu'elle attend le verdict des experts de la Troïka qui doivent à nouveau se rendre mercredi à Athènes et que sans effort, eh bien, il n'y aura pas d'aide depuis Berlin. Donc même si officiellement on dit vouloir que la Grèce reste dans la zone euro, c'est ce que vient de dire un porte-parole du ministère des Finances, en fait le discours ici se durcit. On semble perdre patience à l'égard d'Athènes qui est presque sommée par certains de décider de sortir de la zone euro.
Blandine 1100 en direct de Berlin et les places financières européennes, y compris la bourse suisse, ont plongé dès l'ouverture ce matin sur fond d'angoisse liée à la faillite de la Grèce. Et les marchés sont toujours dans le rouge à la mi-journée, Fabrice Gaudiano.
Oui, alors pour l'instant, les marchés plient certes, mais ils ne capitulent pas. Après le cap de l'ouverture où la chute était généralisée, eh bien, les bourses européennes parviennent tant bien que mal à limiter la casse, même si les baisses sont nettes. À Zurich, l'indice SMI de la bourse suisse cède actuellement environ 2,5%, idem à Francfort. Alors que Londres affiche une perte de moins de 1%. De leur côté, les places de Milan et Madrid dévissent d'environ 3%. Enfin, Paris plonge aux alentours des 4%, et ce n'est pas un hasard. Car le scénario d'un défaut de la Grèce met les banques françaises sous très très forte pression en raison de leur exposition aux dettes publiques des pays en difficulté de la zone euro. Il faut aussi dire qu'une rumeur persistante de prochaine dégradation de la note des banques de l'Hexagone n'arrange rien. Par ailleurs, on en parlait avec Blandine 1100, différentes déclarations peu rassurantes et en provenance d'Allemagne contribuent à alimenter le mauvais climat ambiant. Le corollaire de tout cela, c'est donc des marchés très chahutés, mais aussi des des investisseurs qui cherchent un abri. Et là, c'est paradoxal, puisque les obligations allemandes et américaines ont été prises d'assaut, alors même que leur rendement est désormais nettement inférieur au niveau de l'inflation.
Fabrice Gugnano, chef de notre rubrique économique. Et en parlant de banque, la succursale de l'UBS à Cornavin a fait l'objet d'un braquage ce matin à 10h. Plusieurs personnes armées auraient fait irruption dans l'agence située à la sortie Mont-Blanc de la gare de Genève. La police refuse de livrer toute information supplémentaire pour l'instant. En France, Dominique Strauss-Kahn a été entendu ce matin par la police à Paris dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la plainte pour tentative de viol déposée par la journaliste et écrivaine française Tristan Bannon. Les avocats de l'ex-patron du FMI précisent que DSK s'est présenté de lui-même en qualité de témoin. Et puis à Genève, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a déclaré ce matin que le bilan des victimes de la répression contre la contestation en Syrie avait atteint les 2600 morts. Elle s'exprimait à l'ouverture de la 18e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les jeunes handicapés doivent pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle sans obstacle supplémentaire. C'est ce que demande une pétition munie de 107 000 signatures déposée ce matin à la chancellerie fédérale par plusieurs associations de défense des handicapés. Elle demande l'abandon d'une disposition annoncée dans une circulaire qui prévoit de conditionner le soutien à la formation professionnelle des handicapés à leur capacité ultérieure à gagner un salaire d'au moins 855 francs. Et cela toucherait deux tiers des apprentis, Pascal Jeannerat.
Oui, inadmissible selon les associations de handicapés qui ont déposé les cartons de signature ce matin à Berne. En cause, une circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales qui annonce que le soutien à la formation professionnelle des handicapés sera supprimé si la formation prévue ne promet pas un revenu de 855 francs pour une année de formation et de 1710 francs pour une formation de 2 ans. Le but est d'éviter des efforts et des dépenses inutiles selon l'OFAS, mais cela prive les jeunes handicapés de toute perspective, estiment les associations. Pour Charlie Darbelet, le vice-président du comité central de l'association Cérébrale Suisse, c'est un message désastreux.
On avait ici aujourd'hui un jeune handicapé à qui on a dit on est plus d'accord de vous donner une rente plutôt qu'une formation. C'est ça que nous ne voulons pas, parce que la formation, ce n'est pas seulement une affaire économique, c'est une affaire d'épanouissement personnel et on doit donner à chacun, également aux jeunes handicapés, le maximum de chances.
Le projet de l'OFAS est d'autant moins admissible, selon Charlie Darbelet, qu'il est impossible de présumer avant une formation de la capacité d'un jeune à trouver un emploi après.
Le marché de l'emploi dépend pas seulement des personnes en situation de handicap, ça dépend aussi des entreprises qui sont prêtes à les recevoir, ça dépend aussi des autres conditions cadres. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas reculer dans ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais améliorer encore les chances de chacun.
Un message qui, accompagné de cette pétition, sera bientôt porté à l'Office fédéral des assurances sociales, qui s'estime aujourd'hui mal compris, mais qui dit malgré tout envisager également d'autres solutions que celles qui fâchent. Une table ronde doit avoir lieu prochainement, avant que toute mesure ne soit mise en vigueur.
Pascal Jeannerat en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Famille jurassienne, portrait et perspective, c'est le nom d'une étude publiée aujourd'hui par les autorités cantonales. Et on en parle avec vous, Angela Fleury, bonjour.
Oui, bonjour.
Présidente du Conseil jurassien de la famille, quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette étude ?
Alors écoutez, peut-être au préalable, il est bon que je vous dise simplement que cette étude, ce qu'elle vise, ce qu'elle a visé en tout cas essentiellement, c'est à regrouper dans un même document, je dirais, les principales données statistiques liées donc aux conditions de vie des familles jurassiennes et surtout à rappeler quelques axes de la politique familiale jurassienne. En fait, c'est une compilation de données, c'est ainsi qu'il faut le comprendre, un document statistique qui va permettre en fait aux politiques de prendre des mesures et de définir ensuite donc la politique familiale cohérente pour le canton du Jura.
Quels enseignements donc à partir de cette compilation ?
Alors, les éléments qui sont ressortis, c'est qu'il faut prendre, il n'y a rien de neuf là autour, mieux prendre en considération, je dirais, la complexité des problématiques familiales. Et on va donc, dans ce sens-là, sortir des éléments concrets. C'est réfléchir aussi sur les conditions de vie des familles monoparentales, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même... Enfin, j'imagine que c'est un peu dans tous les cantons pareil, mais c'est vraiment une problématique. Concilier la vie familiale et l'activité professionnelle, c'est-à-dire poursuivre aussi l'extension du nombre de places en structure d'accueil de l'enfance, quoique dans le Jura, il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là, il y a pas mal de structures d'accueil qui se sont aussi ouvertes, et surtout développer, je dirais, des synergies entre les structures d'accueil et les établissements donc scolaires. Ensuite, il y a aussi toute la notion d'égalité, la notion de conciliation qui revient passablement en avant, On part même d'une idée d'octroyer donc une aide financière aux personnes qui veulent se réinsérer professionnellement. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir passablement. Si vous voulez, au départ, cette étude, c'était voir les mesures déjà en application dans le canton du Jura et des mesures projetées ou en cours de réalisation et essayer de voir à peu près où on en était au niveau de la politique familiale jurassienne, parce qu'en fait, c'est vraiment un document inédit, hein. Il n'y a jamais rien qui s'est fait à ce niveau-là dans le canton du Jura, notamment parce que le Conseil de la famille donc s'est reconstitué, si vous voulez, en 2008, et c'est à partir de là donc on a repris tout ça en main suite à une demande aussi du gouvernement qui nous a demandé de réfléchir et de voir ce qu'on était en mesure de faire et de proposer. Après, le Conseil de la famille a fait des propositions et le gouvernement donc, si vous voulez, sur 57 mesures qui ont été proposées par les membres du Conseil de la famille, il y en a quelques-unes qui ont été retenues et d'autres choses qui étaient déjà, d'autres mesures qui étaient déjà donc en cours d'application.
Voilà. Merci beaucoup Angela Fleury d'être venue dans ce journal, présidente donc du Conseil jurassien de la famille. Bon après-midi à vous.
Merci.
Le 12-30, David Racana.
Direction le Japon maintenant, où 6 mois après le tremblement de terre et le tsunami 20 000 fois meurtrier du 11 mars dernier, les 80 000 personnes évacuées près de la centrale nucléaire de Fukushima n'ont toujours pas été indemnisées. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Alain Arnaud.
Horiuchi Eriko vivait à 10 km de la centrale de Fukushima. Elle possédait une villa et un jardin d'enfants. Du jour au lendemain, elle a dû tout quitter pour s'installer à 100 km de là. Aujourd'hui, elle exploite un nouveau jardin d'enfants, mais n'a que 3 clients. Et elle est très inquiète.
Quand je pense à mon avenir, j'ai des insomnies. Durant les 3 premiers mois, beaucoup de gens avaient des soucis alimentaires. Ils se demandaient où ils pourraient loger, comment payer. Maintenant, le gouvernement nous a fourni des logements gratuits pour 2 ans, mais pas d'emploi. Donc, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Les gens passent leur journée à penser à l'avenir et ils tombent malades.
Alors ceux qui le peuvent quittent la région, surtout les jeunes, les mères et leurs enfants. Horiuchi Eriko estime que la région est sinistrée pour longtemps, c'est un nouveau Tchernobyl. J'ai parcouru les rues de Fukushima Ville pour récolter l'avis de la jeunesse locale. Ils ont entre 20 et 22 ans.
J'ai entendu dire que c'était pire que Tchernobyl, mais je ne crois pas que ce soit aussi grave, parce que le Japon fait tout ce qu'il faut pour lutter contre cela.
Personnellement, les radiations ne m'inquiètent pas beaucoup.
Je ne pense pas que je vais rester. La raison principale, c'est les radiations.
Et moi, j'essaie d'éviter les mauvaises nouvelles sur les radiations, de ne pas m'inquiéter.
Concernant Tchernobyl, il y a eu des morts, n'est-ce pas? Mais regardez ici, les radiations n'ont tué personne jusqu'ici. C'est vrai, on aura peut-être des soucis plus tard, mais je n'ai pas l'impression que la situation est si terrible que ça.
Inconscience ou sagesse, aveuglement ou raison, l'avenir le dira. Ces 3 jeunes habitants de Fukushima, en tout cas, m'ont tous affirmé que malgré les dangers, le Japon ne doit pas sortir du nucléaire.
Un reportage signé Alain Arnaud. Tennis, la finale de l'US Open opposera ce soir aux alentours de 22h, heure suisse, les numéros 1 et 2 mondiaux, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Décalé d'un jour en raison des caprices de la météo, le match risque de se dérouler devant un public clairsemé, mais l'ambiance sera à coup sûr électrique, Laurence Bolomé.
23 771 places assises dans les gradins. Le central Arthur Ashe est le plus grand du monde pour le tennis. Il accueille aussi les spectateurs les plus bruyants, susceptibles de s'exprimer au milieu d'un échange, de quitter le stade sur une balle de 7. Avec la musique au changement de côté, le tennis version américaine, mais c'est aussi le cas au Masters, propose une ambiance très particulière. Novak Djokovic.
C'est un sport particulier parce que le public n'a pas le droit. Enfin, disons plutôt que le public est supposé ne pas parler, crier durant l'échange. Alors que dans les sports d'équipe, les spectateurs peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Au tennis, il faut s'imprégner du jeu, y entrer. Mais je crois qu'ici, à l'US Open, nous avons la foule la plus bruyante, avec celle de la Coupe Davis. Ici, les gens font partie du spectacle, pendant la pause, du changement de côté, on voit les gens danser, la caméra qui traque les gens qui s'embrassent ou les y encourage. C'est intéressant, ça n'a rien à voir avec aucun autre événement.
J'aurais préféré être hué plutôt que de subir ce silence, ainsi s'exprimait l'Américain Andy Roddick après sa défaite rapide en demi-finale face à Rafael Nadal. L'audience n'a pas eu le temps de rentrer dans la partie, de choisir son joueur qui aurait très certainement été l'enfant du pays. Le silence, signe de respect partout ailleurs dans le monde pour le tennis, résonnait comme un désaveu aux oreilles de Roddick, qui n'avait jamais vécu cela en plus de 20 rencontres sur le Arthurage de Flushing Meadows.
Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne Santé du dos lancée par la Ligue suisse contre le rhumatisme. But de l'opération, informer le grand public sur des maux qui touchent près de 80% de la population et qui génèrent des arrêts de travail pour 1,5 million de personnes. Mais la campagne ne passera pas par la Suisse romande cette année. Explication avec la responsable de la communication de la Ligue suisse contre le rhumatisme, Andrea Gerfin.
Alors, on a été présents les 3 années passées à Lausanne, Genève et à Fribourg avec des journées de santé, avec des centaines de participants. Et puis cette année, on est pour la première fois au Tessin, à Lugano. Et c'est juste pour une question de ressources qu'on n'a pas pu faire tout cette année.
Des propos recueillis par Loïs Sigan-Lopez qui a mené l'enquête chez les spécialistes du mal de dos. Écoutez.
Permanence ostéopathique de Lausanne, bonjour.
Alors, je vous laisse vous mettre en sous-vêtement.
Christelle Vimin, je suis donc ostéopathe.
Ouais. Je vous laisse vous asseoir.
Les douleurs du dos, que ce soit les cervicales, lombaires, dorsales, c'est vraiment la grande, grande partie de notre travail. On voit vraiment de tous les âges, des sportifs, des gens qui ne bougent pas, des gens qui sont assis toute la journée, des gens qui travaillent, qui ont des travaux manuels. Et c'est vraiment des choses qu'on traite toute la journée.
Je laisse vous pencher un petit peu en avant.
Alors malheureusement, il y a passablement de gens qui se retrouvent à l'arrêt pour des douleurs de dos parce que c'est pas gérable de rester assis 8 heures d'affilée si on a des douleurs importantes. À l'État de Vaud, par exemple, ils ont fait venir des ergothérapeutes pour mettre en place les postes de travail du personnel.
Vous pouvez revenir.
Chiffre. De Gouemoin Pierre, je suis médecin associé. Je travaille ici en rhumatologie au CHUV. On sait que quand l'information passe, par exemple, dans les entreprises, et qu'elle passe correctement, et que les gens sont informés sur la réalité et la bénignité réelle du mal de dos, l'absentéisme diminue.
Vous parlez de bénignité réelle du mal de dos, ça veut dire que les maux de dos, c'est pas grave?
C'est pas grave, mais ça fait mal. Quand je dis pas grave, ça veut bien sûr dire que c'est pas ça qui va vous conduire dans un cercueil. Ça a jamais tué personne. Ça va pas non plus conduire qui que ce soit dans un fauteuil roulant.
Mais ça coûte quand même assez cher à la société.
Alors c'est le paradoxe d'une maladie, enfin c'est même pas une maladie, c'est un état. C'est un manque de conditions physiques et qui par contre est une épidémie majeure puisque en Suisse en 2005, les coûts évalués sur la base d'enquêtes sérieuses faites par des instituts de la santé montrent que ces différents coûts peuvent se monter jusqu'à 10 milliards de francs suisses.
Tout ça finalement parce qu'on bouge pas assez ou on bouge mal.
Oui, effectivement on bouge mal et en tout cas pas assez. Ce qui est important encore une fois c'est qu'on bouge probablement pas juste. Il faut des mois pour récupérer un dos, et une fois qu'on la récupère, il ne faut surtout pas arrêter. On est condamné à entretenir la machine régulièrement.
Un reportage signé Loïs Sigan-Lopez. L'association Alzheimer Valley organise pour la première fois cette semaine des vacances pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Un séjour qui se déroule au foyer franciscain de Saint-Maurice. Bonjour Naïke Lambrière.
Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Secrétaire général d'Alzheimer Valley en direct de nos studios de Sion, pourquoi vous avez décidé finalement d'organiser ces vacances pour les malades et leurs proches ?
Parce que c'est une prestation en fait qui répond aux besoins des familles en termes notamment de solutions de répit. C'est une possibilité pour nous de leur offrir une semaine de détente, de répit et d'évasion. Tout ça sans se séparer en fait de leurs proches atteints, ce qui est en fait extrêmement important pour eux. Et c'est une possibilité pour nous aussi de leur permettre de régénérer leurs ressources, de puiser de nouvelles forces, afin ensuite de retourner dans leur vie quotidienne qui n'est pas évidente, avec davantage de courage et de ressort. Donc l'idée pour nous aussi, c'est de éviter l'épuisement des proches qui est quand même assez récurrent dans la problématique qui est celle de la maladie d'Alzheimer.
Et cette semaine de vacances, entre guillemets, permet aux proches de se reposer un peu, aussi d'échanger leur expérience avec d'autres personnes concernées par la maladie.
Alors effectivement, ils se retrouvent dans un groupe, dans une dynamique de groupe où chacun est au courant des problématiques que soulève cette maladie, où chacun a de la tolérance, a de la patience et où ils peuvent s'échanger entre eux des petites astuces sur comment ils gèrent le quotidien et comment ils s'arrangent au mieux pour maintenir une qualité de vie et une joie de vivre aussi le plus longtemps possible.
C'est important donc de réaliser qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes sont confrontées à la même situation, Naïka Lambrière.
Oui, parce que évidemment que cette maladie-là et à la fois aussi la tranche d'âge que touche cette maladie génère un certain isolement social, un retrait. Et donc le fait de pouvoir se retrouver avec des personnes même de son quartier ou de sa région qui traversent des mêmes difficultés, c'est un soutien psychologique, émotionnel assez fort. Et puis aussi de pouvoir être mis en contact avec des accompagnants bénévoles ou des personnes formées dans cette thématique-là qui peuvent ouvrir ces familles sur l'ensemble du réseau valaisan qui peuvent les soutenir dans leur quotidien.
Cette semaine de vacances, elle est destinée aux proches aidants et aux malades. Pourquoi ne pas l'avoir organisée finalement seulement pour celles et ceux qui s'occupent des malades ?
Alors, disons qu'en termes de possibilités de vacances pour les proches, il y a toujours... En termes de séparation, la possibilité de placer le proche qui est atteint dans des unités d'accueil temporaire, dans des foyers, pour pouvoir partir en vacances. L'idée pour nous là, c'était de mettre en évidence la notion d'absence de séparation. Donc pouvoir garder un œil sur son proche tout en se reposant et de pouvoir aussi intervenir dans la mise en place de la relation avec l'accompagnant. Parce que le proche qui s'occupe à domicile, au quotidien d'une personne atteinte, c'est lui qui est l'expert de comment l'on fait avec son proche et ainsi il peut transmettre à la personne au jour le jour, à l'accompagnant, comment on fait et comment il est le mieux d'établir une relation avec la personne atteinte.
Ils sont dans quel état d'esprit ces proches aidants ? Ils sont angoissés sans doute face à l'avenir, ils culpabilisent aussi peut-être s'ils s'éloignent quelque temps de la personne malade ?
Effectivement, d'où justement une solution de répit sans séparation. Il y a une culpabilité de placer son proche. Il y a une culpabilité aussi face à certaines réactions des personnes atteintes de type agressivité. Il y a une culpabilité de se dire « je ne fais pas comme il faut, je ne suis pas à la hauteur ». Et donc ils ont besoin de soutien de notre part.
Ce type de séjour, de vacances qui démarre aujourd'hui à Saint-Maurice, ça existe dans d'autres cantons ?
Oui, alors effectivement, c'est un concept que nous n'avons pas inventé, que nous avons repris, qui est proposé par l'association suisse et qui est adaptable à chaque structure cantonale. Et elle existe dans la plupart des cantons, notamment Fribourg, Neuchâtel, Genève, qui sont bien rodés sur cette prestation-là depuis un certain nombre d'années.
Combien de personnes participent à ce séjour et qui prend en charge finalement les frais de l'opération ?
D'accord. Alors, il y a 7 couples de participants inscrits pour cette semaine de vacances. Mmh. Et puis, les frais, les participants payent, en fait, ce qui est de l'ordre des frais d'hôtellerie, on dira. Et puis, le reste est pris en charge, d'une part, par des subventions qui nous viennent de l'association suisse, par le biais de l'OFAS, et d'autre part, par le soutien de nos donateurs. Et nous avons également obtenu le soutien de la Loterie Suisse Romande et de la Fondation Adbucher pour nous aider à mettre en place cette semaine de vacances.
Merci beaucoup Naïka Lambrière d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal depuis donc nos studios de Sion, secrétaire générale d'Alzheimer Valais, invitée par Yves Terrani. Merci, bon après-midi à vous.
Merci à vous, bon après-midi.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 2,9% à 5274 points et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Sébastien Lupéré.
Après le passage d'une perturbation la nuit dernière, les conditions se sont améliorées de la matinée avec l'arrivée d'une crête de haute pression. Elle devrait se maintenir cette semaine malgré le passage d'une faible perturbation dans la nuit de mardi à mercredi. Cet après-midi, les derniers résidus nuageux présents sur les Alpes devraient rapidement se dissiper et le soleil régnera alors sur l'ensemble de la Suisse romande. Seuls quelques cumulus décoratifs tenteront parfois de se développer sur les reliefs. Les températures resteront agréables pour la saison avec entre 24 et 26 degrés maximum. Demain, le temps sera assez ensoleillé en matinée malgré quelques bancs de brouillard et des passages nuageux. Dans l'après-midi, le soleil sera finalement bien présent et ce n'est que dans la nuit qu'on pourra éventuellement avoir quelques gouttes sur le Jura et la Joie. Les maxima oscilleront entre 24 et 27 degrés. Mercredi, le ciel sera encore assez nuageux sur le nord, puis les conditions s'amélioreront et nous passerons à un temps bien ensoleillé. Ce temps stable devrait se maintenir jusqu'à vendredi.
La météo avec le comptoir suisse, le rendez-vous de la ville et de la campagne à Lausanne, comptoir.ch.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous recevrons le contre-ténor virtuose français Philippe Jarouski en concert au Temple du Sentier dans la Vallée de Joux. Il interprétera des airs pour castrat du compositeur baroque italien Antonio Caldara, dont il a retrouvé des partitions éparpillées et oubliées un peu partout dans des bibliothèques européennes. Excellent après-midi, il est 13h.